VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, il est 17h30 à Ouagadougou, 18h30 à Diffa, Kolofata et Kananga. Bienvenue dans la première édition du Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, 4 personnes ont été tuées dans un attentat suicide à Kolofata, dans l'extrême nord du Cameroun. Procès de Blaise Compaoré au Burkina, l'opposition dénonce une chasse aux sorcières. L'ONU a découvert 17 nouvelles fosses communes dans le Kassai en RDC. Le Parlement britannique donne son feu vert pour des législatives anticipées le 8 juin prochain. Et puis reportage sur la malnutrition à Diffa au Niger avec notre envoyé spécial Nicolas Pinault.
On voit un enfant qui est amaigri, on voit les os qui sont là, il a perdu ses muscles, donc c'est un enfant qui est émacié.
Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, 4 personnes ont été tuées et 4 autres blessées dans un attentat suicide à Kolofata, dans l'extrême nord du Cameroun. Les précisions de Tatiana Mosso.
Le maréchal de logis Mondjang Jérôme de la gendarmerie de Kolofata est parmi les victimes ainsi que 3 civils. Le kamikaze aussi est identifié comme Abba, originaire de la localité Bourvaré à 3 km de Kolofata. Après l'attentat ce matin, la ville est bouclée par des éléments du bataillon d'intervention rapide. 5 points de contrôle sont tenus par des civils du comité local de surveillance. Ils assurent nuit et jour la surveillance du centre-ville et des 4 entrées. Kolofata a déjà été la cible de Boko Haram. Le 27 juillet 2014, la maison de l'un des barons du régime, Amadou Ali, vice-premier ministre, a été attaquée et son épouse enlevée. Madame Ali sera libérée 3 mois plus tard avec 26 autres personnes, dont des ressortissants chinois.
En RDC, l'ONU a annoncé la découverte de 17 nouvelles fosses communes, portant leur nombre total à 40 dans la région du Kassai central, en proie depuis septembre à des violences meurtrières. Les États-Unis ont prévenu qu'elles réclameraient l'ouverture d'une enquête internationale si Kinshasa n'ouvre pas immédiatement une enquête sur ces violences. Au Niger, Mohamed Ben Omar, ministre de l'enseignement supérieur, a été remplacé. Les étudiants réclamaient son départ comme préalable à tout dialogue avec les autorités. Le point avec Solange Niamoulissa.
Selon un décret signé par le président Mamadou Issoufou, Mohamed Ben Omar et le ministre de l'Emploi et du Travail, Yahouza Sadissou, échangent leur portefeuille. Ngandou Zakara, secrétaire général du gouvernement, a précisé que ces remaniements techniques est pour ramener la sérénité dans le secteur de l'enseignement supérieur suite aux événements du 10 avril. Le départ de Mohamed Ben Omar était l'une des conditions posées par l'Union des scolaires nigériens avant toute discussion sur la crise universitaire. Le syndicat accuse M. Ben Omar d'avoir fait violer les franchises universitaires par les forces de l'ordre qui ont réprimé les étudiants sur leur campus. Un étudiant est décédé et la deuxième exigence des étudiants est l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur la mort de cet étudiant. Pour faire baisser la tension, les autorités ont relâché hier soir 4 dirigeants étudiants.
Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès a dénoncé le procès à venir de l'ex-président Blaise Compaoré et de ses derniers ministres comme un règlement de compte politique. Pour le CDP, le pouvoir actuel se livre à une chasse aux sorcières. En exil en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré et les membres du gouvernement du Premier ministre Luc-Adolphe Thiaw sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires. Le procès doit s'ouvrir à Ouagadougou le 27 avril prochain. Lutte contre la corruption au Nigeria. Le président Muhammadu Buhari a suspendu 2 hauts cadres de son administration, dont l'un de ses plus proches collaborateurs soupçonné de malversation. Le secrétaire général du gouvernement et le chef des services secrets attendront la fin des enquêtes ordonnées par le président Buhari. Il a donné 2 semaines aux limiers pour déposer leur rapport. En Zambie, les avocats d'Akinde Hachilema, le chef de l'opposition, ont demandé à la justice d'abandonner les accusations de trahison qui pèsent sur leur client, incarcéré depuis son arrestation le 11 avril. Monsieur Hachilema a été interpellé pour avoir gêné le passage de la caravane du président Edgar Lungu. Il risque la peine de mort. L'Ouganda a débuté le retrait de ses troupes de la Centrafrique, estimant que la rébellion de l'armée de résistance du Seigneur a été neutralisée avec succès. Pour Richard Karimir, le porte-parole de l'armée ougandaise, le chef de la LRA, Joseph Kony, est désormais affaibli et inefficace selon ses mots. Il ne commanderait plus qu'une petite centaine d'hommes et ne représente plus une menace significative pour la sécurité de l'Ouganda. Des centaines de commerçants ougandais ont manifesté ce mercredi à Kampala contre les commerçants chinois qu'ils accusent de concurrence déloyale. Les précisions de Michel Joseph.
Les marchands ougandais ont laissé exploser la rancœur qu'ils nourrissent depuis des années contre les Chinois. Ils accusent ces étrangers de venir en Ouganda comme des investisseurs sérieux, mais de se convertir ensuite en petits détaillants pour faire concurrence aux locaux. Les marchands ougandais veulent que les Chinois se limitent à l'implantation de grandes entreprises. Du fait de leurs faibles coûts, les produits chinois ont conquis le marché africain. Ces dernières années, des Chinois ont commencé à ouvrir de petites boutiques au chagrin des commerçants locaux. Irias Lukwago, le maire de Kampala, soutient les manifestants. Selon lui, le gouvernement doit les protéger, sinon on risque de s'acheminer vers une dérive xénophobe. Pour Hassan Kasingye, porte-parole de la police, la manifestation est illégale parce qu'elle vise un groupe spécifique, les commerçants chinois, qui mènent leurs activités conformément à la loi.
Une invasion de chenilles légionnaires se propage en Afrique de l'Est. Après le Kenya et l'Ouganda, ces chenilles sont maintenant présentes au Rwanda. Originaire des Amériques et récemment arrivée en Afrique australe, vraisemblablement par des vols commerciaux, cette chenille s'attaque notamment au maïs, au blé, au millet ou au riz.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, le Parlement britannique a approuvé ce mercredi le projet de la première ministre conservatrice Theresa May de tenir des législatives anticipées le 8 juin. Le but pour elle est d'avoir une meilleure main pour négocier le Brexit. Bagasikoura.
Les députés ont validé l'organisation du scrutin que Mme May avait appelé de ses voeux hier mardi par 522 voix contre 13 après une heure et demie de débat. Mme May, dont l'annonce a pris tout le monde de court, avait besoin de l'aval des deux tiers de la chambre basse du Parlement de Westminster pour appeler les Britanniques aux urnes avec 3 ans d'avance. Le feu vert des députés était attendu, puisque les principaux partis d'opposition ont indiqué qu'ils approuvaient l'organisation du scrutin. Jeremy Corbyn, le chef du Parti travailliste, avait immédiatement annoncé qu'il y était favorable, même s'il joue sa tête en cas de déroute du Labour.
Aux États-Unis, un démocrate inconnu de 30 ans, John Ossoff, est arrivé largement en tête dans une législative partielle hier en Géorgie. Cette élection est considérée par les démocrates comme un premier test de leur résistance au président républicain Donald Trump. L'autorité électorale en Turquie a rejeté les recours de l'opposition réclamant l'annulation du référendum sur les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. Des manifestants qui dénonçaient des fraudes ont été arrêtés. En déplacement à Riyad, le secrétaire américain de la Défense a déclaré qu'il fallait empêcher l'Iran à créer une puissante milice au Yémen comme le Hezbollah au Liban. L'Iran est accusé de soutenir les rebelles houthis en guerre avec les troupes yéménites soutenues par une coalition militaire arabe dirigée par l'Arabie saoudite. Le prix Félix Oumfouet-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix a été attribué mercredi à la maire de Lampedusa, Giuseppina Niccolini, et à l'ONG SOS Méditerranée pour, je les cite, « leur travail pour sauver des vies, la vie des migrants et des réfugiés, mais aussi pour les accueillir dans la dignité ». Et puis en Colombie, au moins 11 personnes sont mortes et 20 ont disparu lors de glissements de terrain dus à de fortes pluies à Manizales, dans le centre du pays, moins de 3 semaines après la gigantesque coulée de boue qui a dévasté Mocoa, faisant 323 morts. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et sur voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Abdourahmane Dia.
La Banque mondiale revoit ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne à la baisse. La croissance de la région sera de 2,6% pour cette année au lieu des 2,9% initialement prévus à cause des prévisions moins reluisantes pour les trois premières économies du continent, à savoir l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Angola. Ouverture ce mercredi à Casablanca de la 4e édition du rendez-vous de l'assurance sur le thème de la transformation digitale. 900 délégués du continent prennent part à cette rencontre. Le marché de l'assurance est en plein essor en Afrique et les professionnels du secteur estiment que la révolution du digital est une opportunité pour augmenter le nombre d'assurés et de mieux intégrer des produits comme l'assurance vie, encore peu connue du grand public. Fomoco, le leader des terminaux professionnels et sécurisés, annonce un partenariat commercial majeur avec l'opérateur de téléphonie Orange Cameroun. L'objectif est de réduire les fraudes, les vols et les pertes de données. Grâce à ce partenariat avec Famoco, Orange pourra accélérer la digitalisation de la distribution en Afrique. La technologie permet de mieux connaître l'identité des acheteurs, d'augmenter l'efficacité des vendeurs de cartes SIM et de résoudre les problèmes de vol et de pertes de données. L'aspect sécuritaire dans les télécommunications est de plus en plus considéré comme une exigence par les gouvernements qui font de la lutte contre le terrorisme une priorité.
Et c'est le moment de notre page sport, présentée ce soir par Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Claire.
Évidemment, on va parler foot. La Ligue des champions en Europe et la défaite du Bayern et de Leicester en quart de finale.
Ou disons plutôt la victoire des meringues des Matelassiers de l'Atlético Madrid, Los Colchoneros, comme on les appelle, qui ont fait l'essentiel à Londres en arrachant un nul contre Leicester et synonyme de qualification. Évidemment, tout le monde parle de l'exploit du Real Madrid avec la prestation de CR7 Cristiano Ronaldo qui a assommé les Bavarois. C'est aussi une rencontre entre le maître et l'élève. D'un côté, Carlo Ancelotti, titulaire du Real avant de partir à Munich. Et de l'autre, Zizou, son adjoint. Eh bien, l'élève a eu le dessus sur le maître, Claire.
Et Ronaldo, bien sûr, au Zénith, et Rummenigge, furieux.
L'enfant de Madère, le lieu de naissance de Cristiano, est devenu le premier homme à atteindre les 100 buts en Ligue des Champions. En tout cas, hier, il a mérité son dernier ballon d'or, le 4e, je dois le souligner. Et la suite est alléchante pour les Madrilènes, qualifiés pour le dernier carré de la Champions League pour la 7e saison d'affilée. Un record, Ronaldo et le Real peuvent rêver de devenir les premiers à conserver le titre européen depuis 1990. Colère du Bayern, on s'est fait baiser dans le vrai sens du terme, a fulminé le patron du club Karl-Heinz Rummenigge en jetant le tort à l'arbitre. Le capitaine Philippe Lahm et le milieu défensif Xabi Alonso ont joué leur dernier match de Ligue des Champions à Madrid. Tous les deux prennent leur retraite en juin.
Il y a eu des affrontements en tribune à Madrid et le Bayern porte plainte.
On ne connaît pas encore l'élément déclencheur de ces violences, Claire, mais le Bayern a jugé l'intervention policière dans le carré de ses supporters parfois violente, totalement déplacée et disproportionnée. Une plainte de protestation a été déposée auprès de l'UEFA.
Deux belles affiches encore aujourd'hui. La plus attendue reste Barcelone contre Juventus.
Une autre remontada où le précipice balayait 3-0 à Turin. Barcelone au bord du gouffre. Mais aucun nous, les funambules catalans, sont capables de tout. Et tout semble dépendre du trio offensif MSN. Messi, Suarez, Neymar pour espérer secouer la robuste défense de la Juve. Et le mythique gardien italien Gianluigi Buffon. Côté Juve, personne ne juge la qualification déjà acquise. On le saura ce soir, Claire.
Et il y a aussi Dortmund contre Monaco.
Le Borussia Dortmund essaiera ce soir de renverser le destin à Monaco. Il y a une semaine, l'attentat contre ses joueurs et la défaite 3-0 devant son public a créé un choc, un traumatisme. Mais ceci dit, sa puissance de frappe reste encore dangereuse. Pour les Monégasques, il s'agira de rester froidement concentré pour préserver l'avantage pris à Dortmund.
Une seconde pour nous parler de la NBA.
Les Chicago Bulls ont à nouveau battu les Celtics à Boston et mènent 2-0. Toronto, vainqueur au Canada de Milwaukee, 106-100.
Merci Eric.
Clippers a battu aussi Utah.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. En Centrafrique, des organisations des droits de l'homme haussent le ton. Une plateforme d'une quinzaine d'organisations de la société civile affirme avoir été approchée au sujet d'une éventuelle amnistie des auteurs des crimes commis dans le pays. Un projet qui indigne Maître Mathias Barthélémy Moruba, coordinateur national adjoint du réseau des ONG des droits humains. Nous l'écoutons au micro de Morgane Guériec.
Nous avions reçu la semaine dernière des personnalités qui sont venues nous rendre visite à notre siège pour nous sonder sur une éventuelle loi d'amnistie afin d'amnistier de façon générale tous les auteurs, co-auteurs et complices des actes criminels depuis bientôt 3 ans, sinon plus.
Vous dites qu'ils sont donc venus à votre siège. Qui exactement ?
Je vais taire le nom de ces personnalités pour des raisons de sécurité, pour des raisons de protection des sources. Mais il n'y a pas que l'Union africaine. Voilà ce que nous voulons ajouter. C'est donc au cours de notre entretien qu'ils ont sorti cette histoire d'éventuelle loi d'amnistie. Il n'est pas question d'entendre parler d'une loi d'amnistie en République centrafricaine. Aujourd'hui, les plaies sont encore brillantes. Il y a des centaines de milliers de victimes qui attendent que justice soit rendue et on a mis en place des institutions judiciaires pour pouvoir juger les auteurs. Parler d'une loi d'amnistie, c'est aller à l'encontre de la volonté du peuple centrafricain.
Pour vous, accepter cette amnistie, ça serait ouvrir la voie à d'autres crises.
Exactement. C'est cautionner l'impunité en République centrafricaine. Des cas de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et ce bourreau avait bénéficié de la loi d'amnistie. Et aujourd'hui, malheureusement, la loi d'amnistie n'a jamais réglé une quelconque situation en République centrafricaine. Et d'ailleurs, cette loi d'amnistie va à l'encontre de la cohésion sociale que nous sommes en train de rechercher.
Alors l'amnistie figure parmi les principales revendications des groupes armés. Et c'est souvent présenté comme une façon de ramener la paix, puisque l'idée c'est d'inciter les insurgés à déposer les armes.
Écoutez, il y a un processus du DDR qui se fait actuellement. Mais quel est le processus qui a été mis en place pour désintéresser les victimes qui sont attendues toujours depuis des années? Depuis 20 ans, les victimes des violences que nous avons connues, des mutineries et autres, des coups d'État, n'ont jamais été indemnisées jusqu'à aujourd'hui. Personne ne protège ces victimes-là. On déroule le carton rouge à tous ceux qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire, personne ne peut penser qu'en utilisant la voie de l'amnistie, va empêcher la Cour pénale internationale à faire son travail. Et la Cour pénale spéciale que nous avons en République centrafricaine, qui va être mise en œuvre dans les jours à venir, elle va aussi dans le même sens. Aujourd'hui, les différentes juridictions pénales centrafricaines n'attendent que l'occasion pour faire preuve de justice. Alors pourquoi inciter le gouvernement ou l'Assemblée nationale à proposer une loi d'amnistie ?
Maître Mathias Barthélémy Moruba, coordinateur national adjoint du réseau des ONG des droits humains en Centrafrique.
Dans Washington Forum, ce jeudi, on décrypte la grogne des étudiants à travers le continent, du climat tendu au Niger avec la répression brutale de manifestations étudiantes, au Burundi, en passant par le Tchad. Que réclament les étudiants? Quelles sont leurs conditions matérielles et financières? Les protestations prennent un tournant politique. Que font les gouvernements? L'irruption des forces de sécurité dans les campus est-elle la solution? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h. Temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Du 18 au 22 avril se tient à Lomé, la capitale togolaise, le Forum national sur le foncier. Une gouvernance foncière inclusive pour un développement durable, le temps de l'action, c'est le thème de ce forum qui doit accélérer le processus vers l'adoption d'un nouveau code foncier togolais. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Les textes régissant le foncier au Togo sont vieux d'une quarantaine d'années. Certains décrets pris par le colon français avant l'indépendance du pays sont encore en vigueur. Depuis 2 ans, le Togo s'est engagé dans un processus d'élaboration d'un nouveau code foncier. Dans cette droite ligne se tient le Forum national du foncier. Fiatou Osesenou, ministre togolais de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie.
La pertinence de ce forum, c'est qu'il y a un avant-projet de code foncier qui est en élaboration. Maintenant, nous voulons voir à travers ce forum si vraiment toutes les préoccupations liées au foncier ont été prises en compte dans cet avant-projet en cours d'élaboration avant son adoption. Parce que finalement, il nous faut un test durable, mais également un test qui pousse l'économie du Togo. Et par rapport aussi au développement industriel, agricole et autres, voici vraiment des solutions sont données pour que nous puissions aller vers un développement durable.
Selon les estimations, 80% des affaires qui pendent devant les tribunaux togolais sont relatifs aux fonciers. Dans son rapport sur l'état des lieux de la situation foncière au Togo, la Fondation Konrad Adenauer fait noter que 91,80% des accords issus d'un règlement devant une autorité traditionnelle sont respectés. Pour le chef du canton de Bay, les chefs traditionnels doivent être consultés dans le règlement des litiges fonciers. Togbui Louis Mauko à Klasou 4.
Il faut que la justice essaie de nous consulter. Nous avons une voie consultative. Nous disons que c'est notre décision qui doit primer sur la justice, mais il faut que la justice consulte les chefs traditionnels pour pouvoir mieux trancher les litiges.
Pour les défenseurs des droits de la femme, ce forum doit également se pencher sur l'accès des femmes à la terre au Togo. Claire Quenom, présidente de Women in Law and Development in Africa, WILDAF Togo.
La terre est un moyen de production, surtout en milieu rural. Et une femme agricultrice qui n'a pas la terre ne peut pas travailler et avoir un revenu consistant. Et l'accès à la terre garantit la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. Il faut que la femme aussi ait les moyens de production. Et si elle n'a pas les moyens de production, elle ne peut pas contribuer au développement.
Avec une population féminine agricole estimée à près de 2 millions, le nouveau code foncier ne doit pas négliger cette frange importante de la population active si son objectif est de soutenir la croissance du pays, analyse l'agro-économiste Ayao Madri Sambi.
Si les femmes qui cultivent la terre représentent environ 52% ou bien plus de 51%, ça veut dire qu'elles sont les piliers du développement agricole au Togo. Que pour booster l'agriculture togolaise, il suffit de mettre des moyens productifs à leur disposition.
Au cours de ce forum, le Togo s'inspire des expériences du Maroc, du Botswana et du Tchad en matière de sécurisation du processus d'attribution des titres fonciers, le cadre juridique et institutionnel de la gestion foncière, les modes d'accès à la propriété foncière, la gestion des litiges fonciers et le marché hypothécaire sont entre autres thèmes inscrits à l'agenda de ce forum. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Santé maternelle, environ 830 femmes meurent chaque jour des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. 99% des décès maternels surviennent dans les pays en développement selon l'Organisation mondiale de la santé. Les raisons sont diverses. Le reportage à Abidjan de notre correspondante Narita Namasté.
Une grande partie des décès maternels dans le monde surviennent en Afrique au cours de l'accouchement. En Côte d'Ivoire, plus de 15% des femmes connaissent des complications médicales mortelles. Environ 5% de ces femmes enceintes souffrent d'hypertension artérielle, le plus souvent au cours du troisième trimestre. Selon Dr Abbé, les complications au cours de l'accouchement les plus enregistrées dans son pays sont l'hypertension artérielle et l'éclampsie.
On peut faire la gradation, si vous voulez, des maladies, mais on peut citer l'une des plus fréquentes et qu'on observe malheureusement chez nous, c'est effectivement l'hypertension artérielle qui survient au cours de la grossesse. Et l'association hypertension, protéinurie massive et convulsion avec perte de connaissance qui constitue ce qu'on appelle la crise d'éclampsie. C'est grave. Le pronostic vital de la mère est engagé. Et quand c'est comme ça, quel que soit le terme de la grossesse, il faut arrêter l'évolution de cette grossesse.
À 2 semaines de son accouchement, Madame Nyamke nous explique l'importance de la consultation au cours de la grossesse et comment elle a été sauvée d'une grossesse à risque.
Moi, si je prends mon cas, par exemple, j'avais des menaces à partir de 3e à 4e mois qui étaient dues aux échauffements de l'eau, il paraissait. Il y a toutes sortes de complications, de maladies qu'on ignore. On peut, par exemple, dire que bon, c'est les sociétés qui font que je ne fais pas d'enfant ou bien qu'à chaque fois que je prends une grossesse, je perds cet enfant, alors que c'est dû à une maladie.
En Côte d'Ivoire, où la santé maternelle est devenue gratuite depuis 2011, certaines femmes gardent encore de mauvais souvenirs des sages-femmes et préfèrent la médecine traditionnelle, comme c'est le cas chez Mademoiselle Kofi.
Les sages-femmes insultent les gens à suivre, donc c'est pourquoi on a fait d'aller. Un indigène est mieux traité par rapport, il n'a pas de problème. Ça fait 4 enfants. Depuis mes 4 enfants, j'étais un indigène. C'est à l'accouchement, j'étais à l'hôpital.
Les personnes chez qui les risques de complications et de décès dus à la grossesse sont plus élevés sont les adolescents qui cachent leur grossesse à leurs parents, nous explique Dr Abbé.
Un des groupes de femmes à risque dans le suivi des grossesses, ce sont justement ces très jeunes filles qui sont enceintes et qui cachent leur grossesse, donc qui ne font pas de consultation prénatale et qui arrivent quelquefois dans un tableau de complications à la maternité.
Ces complications au cours de l'accouchement occasionnent plus de 40% de décès dans ce pays où la prise en charge de la femme enceinte, de la mère et de l'enfant sont gratuites.
Inquiétude au Niger, où des cas de malnutrition existent et devraient augmenter avec la période de soudure. Reportage de Nicolas Pinault, notre envoyé spécial.
De part et d'autre, du goudron brûlant de la route nationale 1, le camp d'Assaga se situe à quelques kilomètres à l'est de Diffa. C'est là que vivent des réfugiés nigérians ou des déplacés nigériens de Boko Haram. Pas besoin de chercher bien loin, au milieu des cases balayées par le sable pour trouver des cas de malnutrition. Mamadou a 1 an. Affaibli, l'enfant a le regard vide et sa mère, Chatouchiwa, elle aussi a faim. Elle produit peu de lait pour le nourrir.
Depuis sa naissance, nous allons au centre de santé. À ses 6 mois, on a commencé à lui donner de la pâte d'arachide. Il est très fatigué et pleure souvent pour manger. Mais comme je n'ai pas de lait, c'est dur.
Selon l'UNICEF, près de 12 000 enfants de moins de 5 ans devraient souffrir de malnutrition cette année dans la région de Diffa. Et beaucoup passeront par le centre de renforcement nutritionnel intensif. Le docteur Mustapha Saleh dirige le CRENI et visite ses petits patients, dont certains n'ont que la peau sur les os. Ce garçon de 2 ans ne pèse que 5,6 kilos.
On voit un enfant qui est amaigri, un amaigrissement sévère, donc qui est visible. Dès qu'on le voit, c'est un enfant, on voit les os qui sont là, donc les os du crâne, on voit effectivement, c'est un enfant où il a perdu ses muscles, donc c'est un enfant qui est émacié, donc c'est ça qu'on voit. Mais l'objectif ici, c'est d'abord le stabiliser, puis après, il va prendre du poids.
Malgré ces cas alarmants, pas de famine à Diffa ou au Niger, plutôt une situation récurrente de stress alimentaire dans ce pays du Sahel. L'UNICEF estime que 247 000 enfants de moins de 5 ans souffriront de malnutrition sévère cette année au Niger. Et pour le Programme alimentaire mondial, 1,5 million de personnes souffrent d'insécurité alimentaire au Niger. Pierre Camara est le représentant de la sous-délégation du HCR à Diffa.
La situation alimentaire, je crois que n'est certes pas bonne, mais elle n'est pas aussi différente des autres régions du Niger. Parce que de manière globale, au Niger, la situation alimentaire reste critique, surtout dans une période comme ça de soudure.
Retour au camp d'Assaga, où les réfugiés affirment ne pas avoir reçu d'aide alimentaire depuis 4 mois. Ils tourneront, eux, qui ne peuvent rentrer chez eux à cause de la menace Boko Haram. Falouma Taboukar est une femme d'Assaga. Elle sert de relais communautaire dans le centre de santé.
Dans les camps, la situation est difficile. On n'a pas assez à manger. Les enfants ont faim ou ont la diarrhée. On les amène au centre pour les soigner et on leur prescrit des aliments riches. Mais les parents ne peuvent pas payer. La vie au village, c'était mieux.
La période de soudure qui s'annonce devrait correspondre à une augmentation du nombre de cas de malnutrition. Une saisonnalité à laquelle les médecins de Diffa sont habitués depuis plusieurs années d'insurrection de Boko Haram. Nicolas Pinault, Diffa, VOA Afrique.
Merci de votre fidélité. C'est la fin de cette édition. Merci à Lionel Gaïma pour la réalisation, Wagner Roberts à la console, Claire Morin-Gibourg était derrière le micro. Pour plus d'informations 24h sur 24, voafrique.com.